Oui.
Vas-y.
Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Personnellement, bien que j'ai été à la dame dans mes jeunes années d'ingénieur, je n'ai pas participé directement à l'histoire de la bombe atomique. Parce que je suis arrivé à la dame en 1966 et les jeux étaient déjà faits. Par contre, j'ai participé à la suivante, qui était la bombe H, qui était aussi une autre histoire. Peut-être qu'un jour, on en fera l'histoire. On en racontera l'histoire. Hein. Bon, donc j'ai vécu ça un petit peu, disons, à travers les commentaires ce que voulait m'en dire mon père de temps en temps. Parce que de temps en temps, on en causait, mais il n'était pas très bavard là-dessus. Vu comme vous allez voir, la plupart des choses qui se sont faites à cette époque-là se sont faites un peu sous le manteau. La façade étant que la France n'était pas vraiment intéressée à faire la bombe. Et ce qui se passait, ça se passait un petit peu dans le secret. Voilà. L'histoire de la bombe, c'est une saga qui va s'échelonner sur plus de 20 ans. Ça commence... Disons, on peut situer le début à la fin des années 38, début 1939, jusqu'au 13 février 1960, date de la première explosion atomique. Donc ça fait plus de 20 ans. C'est une très longue histoire. Et une histoire qui était marquée par un événement considérable, qui était la guerre de 40. Et très peu après le début de cette saga... arrive cette catastrophe de la guerre qui va bouleverser, bien sûr, l'histoire de la bombe française. Et donc, on peut distinguer trois périodes dans cette saga. Il y a la première période qui va fin 1938, début 1939, à, disons, à la fin de la drôle de guerre, donc à mai 1940, hein. Et après, il y a la guerre elle-même, où là, côté français, tout s'arrête pratiquement, quoi. Rien ne se fait plus en France. Par contre, ça s'accélère ailleurs, aux États-Unis, par exemple, avec le projet Manhattan, on verra ça aussi un petit peu. Et puis, la troisième période, qui est la période donc après la guerre, à partir de donc 45, août 45, où là... le programme nucléaire français se remet sur les rails et va déboucher sur la fabrication de la bombe et la première explosion à Reagan en 1960. Alors, la première période, c'est une période où c'est les savants qui contrôlent, c'est les scientifiques qui contrôlent le système. Ce sont des essais de laboratoire, des recherches théoriques, des découvertes. Et quand les scientifiques font une découverte, ils la publient immédiatement. C'est le premier qui la publiera, une espèce de compétition. On publie très vite, on informe tout le monde, parce que tout le monde fait un peu les mêmes recherches. Donc les politiques ne s'intéressent pas tellement à ça. C'est du travail de labo, c'est pas ça. Mais au fur et à mesure que la menace de la guerre s'approche, les politiques commencent à s'inquiéter de ce qui se passe, parce qu'ils entendent parler d'explosions atomiques, de choses là. Donc les politiques commencent à s'intéresser à la chose. Pendant la guerre, c'est évident que ce sont les politiques, en tout cas côté anglo-saxon, qui vont contrôler tout ça. Et après la guerre, là, il y a une période, disons, entre 45 et 50, où les scientifiques français donc reviennent, se remettent au travail et vont essayer de reprendre la main. Pendant 5 ans, c'est eux qui vont faire la loi, avec Joliot-Curie en tête. C'est eux qui vont faire la loi. Non seulement ils vont faire des recherches, mais ils vont administrer le système. C'est eux qui sont les porte-parole du gouvernement français dans les instances, etc. Et puis, vers 1950. Les politiques vont reprendre la main. Et de 1950 à 1960, c'est vraiment les politiques qui vont contrôler l'histoire de la bombe. Donc voilà un peu le schéma, si vous voulez, directeur de cette saga. Alors, comme je vous dis, elle est très longue, cette saga, et dans cette présentation, je vais simplement essayer de vous donner les éléments les plus significatifs qui permettent de comprendre l'ensemble de l'histoire. Mais il est bien évident qu'il y a tellement d'événements qui se sont produits qu'on ne peut pas les donner tous. Alors, s'il y en a que ça intéresse, je suppose, ben je vais vous renvoyer à ces trois ouvrages qui m'ont servi à moi à prendre les éléments pour cette présentation. Le premier, c'est un livre que ceux qui s'intéressent à la bombe connaissent, qui est un livre de Ben Jabbar, qui est un historien, journaliste, et qui est très bien documenté et qui est très complet. Le second, sont les mémoires du professeur Rocard, Yves Rocard, qui a participé, lui, au programme, puisqu'il était conseiller scientifique de la direction des applications militaires. Et c'est un excellent scientifique. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a donné mes premières leçons de physique nucléaire. On en reparlera dans... Et alors, il donne dans ses mémoires, qui vont au-delà de l'histoire de la bombe, puisque ce sont ses mémoires à lui, mais il donne une vision un peu différente de l'historien sur les choses qui se sont passées là. Bon, le dernier bouquin, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est une compilation d'un colloque qui a eu lieu en 2017. Et qui est préfacé par l'actuel ministre des armées, Florence Parly. Donc c'est beaucoup plus récent. Et ça donne aussi un éclairage un peu différent, vu le recul par rapport aux événements. Donc entre ces trois ouvrages, je pense qu'on peut avoir une vision assez complète de l'histoire de la bombe. Alors je pense que... Avant de commencer cette histoire, je pense que la majorité d'entre vous a un background, comme on dit, scientifique. Donc je ne vais pas m'étendre, mais je vais faire quand même un petit rappel théorique. Alors oui, le petit rappel théorique, c'est-à-dire que bon, là, quand certains noyaux lourds sont soumis à un bombardement neutronique, dans certaines conditions, ils peuvent se casser en deux et donc donner naissance à deux autres noyaux plus légers et un ou plusieurs neutrons. Ces neutrons peuvent à leur tour impacter d'autres noyaux et vous voyez rapidement que s'il y a trois neutrons, par exemple, ou deux neutrons, ben, assez rapidement, on va avoir une réaction en chaîne. Alors, si la libération d'énergie est brutale, on a affaire à une bombe. Si elle est lente, progressive et contrôlée, on a affaire à un réacteur nucléaire. Donc, vous voyez que la base de ce phénomène peut servir à la production d'énergie ou à la réalisation d'une bombe. Et c'est cette ambiguïté qui va permettre aux gens du CEA, aux scientifiques du CEA, de travailler sur à faire la bombe sans que ça paraisse, en donnant le change un peu aux politiques, faisant croire aux politiques qu'on faisait ça pour produire de l'énergie et pas pour faire la bombe. Bon, ici, les noyaux lourds qui nous intéressent, c'est donc l'uranium-235 et le plutonium-239. 235, c'est le nombre de masses de l'uranium. Ça veut dire que le nombre de protons plus le nombre de neutrons est égal à 235, et le nombre de protons dans l'uranium 235, c'est 92. Donc, par différence, le nombre de neutrons, ça va être 43. Pour le Pu-239, le numéro atomique, c'est 94. Donc, le nombre de neutrons, c'est 45. Et le nombre total de nucléons, c'est 239. Alors, l'uranium, lui, c'est un élément qui se trouve dans la nature, sous forme métallique, oxyde de métallique. Seulement, bon, il est composé à 99,3% d'uranium 238 et seulement à 0,7% d'uranium 235. C'est pas beaucoup. Et malheureusement, l'uranium 238 n'est pas fissile. Donc, pour pouvoir faire produire de la fission avec de l'uranium, il faut l'enrichir. Alors, il faut l'enrichir jusqu'à 3% à peu près pour faire un réacteur nucléaire, mais il faut l'enrichir jusqu'à 90% à peu près pour faire une bombe. Et l'enrichissement de l'uranium, on le verra, c'est une opération qui n'est pas simple. Une opération industrielle de grande envergure. Alors, les neutrons qui sont issus de la réaction en chaîne sont des neutrons qu'on dit rapides, c'est-à-dire qu'ils ont une énergie importante d'eux-mêmes. Et malheureusement, l'uranium 235, lui, n'est fissile que par des neutrons lents. On dit aussi des neutrons thermiques, c'est-à-dire des neutrons qui ont une énergie qui est de l'ordre de 0,025 MeV. Donc, beaucoup moins énergétique que les neutrons rapides. Donc, pour pouvoir fissionner l'uranium 235, il faut ralentir les neutrons dans la réaction en chaîne à l'aide de ce qu'on appelle un modérateur, c'est-à-dire qui est un corps en général léger, tel que l'eau naturelle, l'eau lourde ou le graphite. Le plutonium, quant à lui, il ne se trouve pas dans la nature, lui. Donc il faut le fabriquer. Il faut le fabriquer en, comment ? En irradiant de l'uranium dans une pile ou un réacteur. Puis ensuite, il faut l'extraire. Il faut l'extraire, puis ensuite, il faut pouvoir le manipuler. Il faut pouvoir l'usiner. Il faut pouvoir le... Alors, comme il est instable, on ne peut pas l'utiliser comme tel. Il faut l'allier avec un autre métal. Et je me souviens, c'était une anecdote que m'a raconté mon père, ça devait être dans le milieu des années 50. Les premières piles commençaient à donner un peu de plutonium, et donc les ingénieurs se demandaient comment ils allaient faire pour manipuler ce plutonium et l'usiner. Alors, ils ne savaient pas comment faire, il n'y avait pas de référence à l'époque. À l'époque, Wikipédia n'existait pas. Donc, ils auraient pu essayer tous les éléments du tableau de Mendeleïev, mais ça aurait été extrêmement long et coûteux. Donc, la direction du programme à ce moment-là a monté une mission aux États-Unis. Donc, une mission de scientifiques qui sont partis pour faire une tournée des laboratoires américains qui travaillaient ou qui avaient travaillé sur le plutonium. Donc, il y avait Los Alamos, il y avait Brookhaven, il y avait Hanford, enfin tous les laboratoires. Et puis là, le sujet étant la métallurgie du plutonium, ils se sont fait présenter tous les alliages possibles et existants. Tous sauf un. Donc, quand ils sont revenus, évidemment, ils avaient la réponse. C'était l'alliage avec le gallium. Donc, l'alliage de gallium. Donc, à partir de là, ça a été assez vite. Donc, par contre, le plutonium, il a un intérêt, c'est qu'il est fissile par des neutrons rapides, lui, le 239. Il n'a pas besoin de les ralentir. Et donc, en raison de ces différentes caractéristiques, l'uranium-235, il est plutôt utilisé pour les réacteurs, tandis que le plutonium, bah, lui, il est utilisé pour la bombe. Il est plus facilement utilisable pour la bombe. Alors, maintenant, l'histoire commence. Alors, on va commencer par cette première période dont je vous ai parlé, qui est la période d'avant-guerre, et par le tout début. Alors, bon, on peut le faire débuter, bien sûr, il y a des savants qui ont trouvé, qui ont fait des travaux avant, mais réellement, ça démarre vraiment avec la découverte par Otto Hahn et Fritz Strassmann du phénomène de fission, induite par rapport à la fission, comment on dit, la fission spontanée. Ouais. Alors cette découverte, elle est aussi partagée par Lise Meitner, qui est une physicienne autrichienne et qui était réfugiée en Suède à l'époque, et qui participe à cette découverte en calculant, elle, l'énergie qui est produite par cette réaction de fission. Bon, puis en février, ça va aller assez vite à partir de là, en février 1939, Niels Bohr, en Suède, découvre que l'uranium naturel contient deux isotopes, donc l'uranium-235 et le 238, et que l'uranium-235 est en très faible quantité, 0,7%, dans l'uranium extrait de la mine. Côté français, alors, en février, janvier-février 1940, Joliot et son équipe, Lou Kovarsky et puis Hans Alban, font des expériences et démontrent expérimentalement que la réaction en chaîne est possible. Et qu'elle s'accompagne d'une émission de 3 neutrons. En fait, c'est pas 3, c'est 2,08. Mais bon, disons, c'est les débuts. Et que donc ces neutrons produits vont casser d'autres noyaux et provoquer une réaction en chaîne. Alors, très vite, ils vont vouloir publier ça, parce que, comme on dit, il y avait une compétition, en particulier avec les équipes de Fermi à Chicago, qui travaillaient un peu sur le même sujet. Donc, ils vont publier très vite ces résultats dans le journal Nature, qui est un journal que tous les scientifiques du monde à l'époque lisent. Et tout ça pour prendre date avant les autres. Alors, ils vont même aller plus loin. C'est que, donc en mai 1939, donc peu de temps après leurs expériences et leurs publications, ils vont déposer 3 brevets. Parce que Joliot était assez pragmatique de ce côté-là. Et ils déposent 3 brevets en France et dans le monde entier. 2 sur la production d'énergie, et 1 sur ce qu'ils appellent la perfectionnement des charges explosives, qui est donc celui qui parle de la bombe. Seulement, le président du conseil de l'époque, qui était à ce moment-là Daladier, par décret, émet un décret pour dire que ce brevet doit rester secret et ne doit pas être diffusé. Donc ils n'ont pas pu déposer ce brevet, ce troisième brevet, et ils l'ont mis dans un tiroir qui ne ressortira qu'après la guerre. Alors, l'histoire des brevets en elle-même, c'est une histoire, c'est une saga en elle-même. Hein. Ça a duré après la guerre, etc. C'est-à-dire que ils ont déposé un brevet qui était un brevet à caractère civil, hein. Pas moi. Mais le dépôt des brevets avait été financé par la Caisse nationale de la recherche scientifique, qui est un organisme public. Donc, il y a eu un mélange public-privé, dans cette histoire de brevet, qui a créé un imbroglio juridique considérable. Et la France n'a jamais pu s'en sortir. Donc on verra que les brevets, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors, en juillet 1939, l'équipe française dirigée par Joliot et soutenue par Dautry entame des expériences sur la libération d'énergie lors de réactions en chaîne, d'abord au Collège de France, puis au laboratoire de synthèse atomique à Ivry. Donc on peut dire que jusqu'à la fin de cette période, l'équipe française vraiment était en avance sur les autres. Elle avait un temps d'avance sur les autres scientifiques. Alors, ils étaient en avance, et puis tout d'un coup, patatras, c'est la guerre, et l'invasion de la France, la défaite, etc. Donc, pour la France, c'est l'arrêt complet de tout le programme nucléaire. En juin, le 19 juin 40, l'équipe de Joliot, Alban et Kovarsky s'embarquent pour l'Angleterre avec le stock d'eau lourde qu'ils avaient été au préalable récupérer en Norvège, c'est bien connu. Donc c'était Jacques Allier à l'époque qui était membre du ministère de l'Armement et qui faisait partie des services secrets et qui était aussi actionnaire de la Norsk Hydro, qui avait été récupérer ce stock et qui avait réussi, à la barbe des Allemands d'ailleurs, qui cherchaient la même chose, à récupérer tout le stock d'eau lourde. Donc ils ont emmené sur le bateau, ils ont emmené des bidons avec tout le stock d'eau lourde en Angleterre. Joliot, lui, reste en France. Il ne s'en va pas, pour des raisons personnelles, on ne sait pas trop. Certains l'ont soupçonné d'avoir avoir eu des faiblesses vis-à-vis de la collaboration pour ça. Parce que jusqu'en 1943, il ne fait pas partie de la France libre, il ne s'est pas engagé. Il reste au Collège de France, il fait ses petits travaux. Il n'est pas trop embêté par les Allemands. Donc ça prête un peu à suspicion. Et puis surtout, il publie un article dans un journal très vichysois qui fait mauvais effet. Néanmoins, bon, en 1943, il rejoint la France libre définitivement, et à partir de ce moment-là, il est vraiment de l'autre côté de la résistance. Alors, les savants français, Alban et Kowalski, ils arrivent en Angleterre, et eux, on leur demande, le gouvernement anglais les reçoit avec tapis rouge, bien entendu, mais on leur demande de ne pas rejoindre la France libre, pas rejoindre De Gaulle. Alors, ils deviennent des employés du gouvernement britannique. Ils sont payés, et bien payés, par le gouvernement britannique. Les autres savants, dont on va parler plus tard, qui partent, ils vont travailler d'ailleurs au Canada, etc., eux, ils le font à travers la France libre. Ils rejoignent la France libre et ils vont là-bas. Donc il y avait une différence de statut entre ces scientifiques et l'équipe, les hommes de Joliot. Alors là, en 1942, les Anglais, ils étaient bien au courant de ces histoires de brevets, ça les enquiquinait. Donc ils ont voulu résoudre le problème et ils ont négocier, disons, un accord avec Alban et Kovarsky. Comme sur ces brevets. Alors, l'accord leur donnait un certain droit en France et dans les colonies françaises sur les brevets relatifs à leurs inventions, mais sur les brevets qu'ils ont déposés en commun avec les savants anglais, rien du tout. Donc c'était un accord quand même, d'abord, qui ne défendait pas les intérêts de la France, et il n'était pas mandaté non plus pour faire ça. Mais c'était un peu le... Non, à l'époque, il n'y avait plus de gouvernement, c'est pas bon. Donc ils ont fait cet accord en leur nom. On verra plus tard, ça va poser aussi quelques problèmes. Alors, dans un premier temps, ils vont passer une année au laboratoire Cavendish à travailler avec les savants anglais. Ils les connaissent bien, puisqu'il y avait eu beaucoup de coopération là, avant-guerre entre les équipes françaises et les équipes du CNRS et les équipes anglaises qui travaillaient sur les sujets atomiques. Donc, ils vont travailler avec les Anglais au laboratoire Cavendish. Et puis, ils vont évidemment informer les Anglais de toutes les résultats qu'ils avaient obtenus en France. Mais il se trouve qu'à l'époque, les politiciens anglais, comme les Américains d'ailleurs, étaient convaincus que ils n'arriveraient pas à faire une bombe avant la fin de la guerre. Donc ils n'étaient pas très motivés par ces sujets, ce n'était pas la priorité. Mais cependant, quand les Français leur ont dit ce qu'ils avaient fait, et en même temps il y a eu un rapport qui est sorti par deux scientifiques de Birmingham, un certain Rudolf Pierce et Otto Frisch. Otto Frisch, c'était d'ailleurs le collaborateur de Meitner en Autriche, qui s'était réfugié en Angleterre, qui, eux, ont rendu un mémoire démontrant qu'avec une masse de 5 kg d'uranium-235, on pouvait produire une bombe. Alors, il faut dire aussi qu'avant l'arrivée des savants français en Angleterre, il y avait eu une mission du même Jacques Allier, en Angleterre, pour rencontrer des savants anglais. Il y avait donc Thomson, qui était un très grand savant, il y avait Oliphant et puis Cockcroft. Hein. Il rencontre, puis d'autres savants, il rencontre ces gens-là et il leur explique ce qu'avait fait Joliot et ses équipes. Et comme peu de temps après arrive le rapport, le mémorandum des deux savants anglais, les savants anglais commencent à se poser des questions. Et ils créent à ce moment-là un comité qu'ils appellent le comité MAUD, M-A-U-D, pour évaluer tout ça. Et ce comité, à l'issue de ces évaluations, fait des recommandations au gouvernement anglais. Et une de ces recommandations, c'est que le gouvernement anglais engage un programme de développement et de réalisation d'une bombe atomique. Et alors les Anglais, à ce moment-là, monte une mission aux États-Unis, appelée la mission Tizar, parce que les Américains n'étaient pas encore en guerre, mais les Anglais voulaient mettre la pression sur les Américains pour justement les amener dans la bataille. Donc ils montent cette mission et ils expliquent aux savants américains, aux politiciens américains, ce qu'ont fait les Français, les résultats des évaluations du comité MAUD, etc. Et du coup, les Américains, ils se rendent compte tout d'un coup que c'est important, et ils vont accélérer considérablement leurs recherches et leurs travaux. Ils vont tellement les accélérer qu'ils vont dépasser, évidemment, les Anglais, et à partir de ce moment-là, ils sont plus tellement d'accord pour un accord, pour une relation intime avec les Anglais. Ils essaient de les tenir. Bon, évidemment, Churchill met la pression et finalement, en 1943, il signe les accords de Québec, où il fusionne en fait leurs deux programmes. Côté anglais, ils appellent ça Tubaloy, et côté américain, le programme Manhattan. Donc ils fusent leur machin. Mais en contrepartie, c'est le secret absolu. Il faut que personne ne soit au courant. Donc les Français, aussi, dans le même temps, les Anglais, comme les gens de Joliot avaient travaillé sur des sujets qui étaient proches de ceux de Fermi aux États-Unis, ils ont demandé aux Américains que les deux Français puissent aller travailler à Chicago avec Fermi, dans les équipes Fermi. Bon, bien sûr, les Américains ont dit niette. Et donc les Anglais se sont rapprochés des Canadiens à ce moment-là. Et donc, ils ont fait un accord avec le professeur Lawrence à Montréal pour qu'ils acceptent, que le laboratoire de Montréal accepte les savants français. Donc, et les savants français qui sont venus par la France libre, il y avait Pierre Auger, il y avait Jules Guéron et Bertrand Goldschmidt, qui eux sont passés par la France libre, qui avait un bureau à New York. Donc, ils se sont tous retrouvés à Montréal à ce moment-là, sous la direction de Alban aussi. Donc toute l'équipe, donc les gens aussi de Londres sont partis là-bas. Donc toutes les équipes se sont retrouvées au laboratoire de Montréal, ce qui a permis quand même de les maintenir dans le développement des programmes et d'être un peu au courant de ce qui se passait côté américain, parce qu'il y a toujours des fuites de ce côté-là. Alors oui, en août 1943, les Américains et les Anglais signent l'accord de Québec qui entérine la fusion de leurs programmes, comme je l'ai dit, et la non-divulgation de leurs travaux. Alors bien sûr, les Anglais sont un peu enquiquinés parce que quand ils ont négocié l'affaire des brevets, le chancelier de l'échiquier de l'époque, Lord Anderson, avait reconnu publiquement, entre guillemets, qu'ils avaient une obligation morale vis-à-vis des chercheurs français pour les travaux qu'ils avaient apportés. Alors ils étaient un peu coincés parce que avec l'accord de Québec, ils ne pouvaient rien dire, et vis-à-vis des Français, ils leur devaient quand même des informations. Donc les Anglais, ça ne les gêne pas trop, ce genre de situation. Oui. Ils sont forts en diplomatie, hein. Comme on le verra plus tard, ils ont roulé tout le monde dans la farine. Quoi. Bon. Oui, mais alors ils vont plus loin, parce que les Américains voulaient absolument... Les Américains, ils n'aimaient pas De Gaulle, hein. Déjà pour plusieurs raisons. Ils n'aimaient pas Joliot, parce qu'il était... Il était de plus en plus communiste, donc ils avaient une méfiance. Hein. Donc ils voulaient... Il voulait tenir à l'écart les Français complètement. Il ne voulait absolument rien avoir avec les Français. Donc, il signe un accord avec le gouvernement belge exilé à Londres qui réservait toute la production congolaise d'uranium aux seuls anglo-saxons, rendant caduque l'accord conclu avec le CNRS en 1939, parce qu'en 1939, Joliot avait négocié avec les Belges, avec le Haut-Katanga, un accord qui leur donnait droit à la production du machin. Donc là, ils se sont fait éjecter complètement. Alors ensuite, bon, à la libération de Paris en 1944, évidemment, les savants français veulent revenir en France, les Américains, ils sont opposés, parce qu'ils savent que les savants français, ils ont quand même certaines connaissances, et ils ont peur que... en revenant en France, ils continuent leurs travaux, etc., indépendamment. Les Anglais sont plus subtils. Les Anglais, ils ne voulaient pas trop empêcher les Français de rentrer, parce qu'ils se sont dit, si ils ne vont pas avec nous, ils vont aller avec les Russes. Or, ils n'avaient pas tout à fait tort, parce qu'en 1944, déjà, De Gaulle il avait signé un accord avec Staline, d'assistance mutuelle. Et puis, à la fin de la, justement, à la fin, en 1945, Joliot va à Londres pour discuter de l'affaire des brevets. Et puis, il dit aux Anglais, ben, si vous ne me donnez pas satisfaction, eh ben, moi, je vais pouvoir aller faire mes affaires avec les Russes. Et alors, Anderson lui demande, mais vous avez déjà fait quelque chose avec lui, avec les Russes? Et il dit oui. Effectivement, il y avait déjà des accords qui se mettaient en place entre les Russes et les Français. Donc les Anglais, ils ont été plus coulants, donc ils ont embobiné Joliot. Ils lui ont fait croire que, oh oui, on va coopérer, non, on va coopérer, on va vous donner tout ce que vous voulez, on va vous donner des informations, mais pas tout de suite, un peu plus tard, c'est pas le moment, ils l'ont un peu roulé dans la farine. Et quand Joliot est revenu, comme Joliot avait quand même l'écoute de De Gaulle, enfin plutôt De Gaulle avec les... Eh ben, De Gaulle n'a rien demandé, parce que les Anglais avaient peur que De Gaulle réclame les choses. Finalement, il n'a rien demandé du tout. Alors, c'est ce que je disais, c'est que les Anglais manipulent Joliot, avec talent, bien sûr, en exagérant, bien sûr, les difficultés de réalisation de la bombe, et promettant des tas de choses à Joliot. Bon. Et Joliot, il gobe. Il gobe. Il revient donc en France, et puis il dit à De Gaulle, tout va bien. Alors, pour parler aussi un petit peu de l'occupation en Allemagne. À la fin de la guerre, évidemment, il y a eu un partage de l'Allemagne en trois zones, une zone russe, une zone américaine, une zone française. Bon, les Français, bien sûr, ont hérité de la zone la moins industrielle, la plus petite zone, la moins industrielle, enfin, un truc. Mais c'était la zone où il y avait le plus de savants. Pas de peau pour les autres. Mais là encore, on s'est fait rouler dans la farine, parce que les Américains ne savaient pas ce que faisaient les Allemands sur la bombe atomique. Ils avaient peur que les Allemands soient en avance sur les gens avaient beau leur dire, les experts avaient beau leur dire que non, l'Allemagne n'était pas dans le coup, etc. Ils avaient quand même leurs doutes. Donc, en même temps que le débarquement en Provence, il y a une équipe, ils avaient monté une équipe, une mission, mission Alsace. Alsace, ça veut dire bosquet en grec. Et le grand patron du programme nucléaire américain s'appelait Groove. Donc c'était un peu un même mot. Bon. Et cette mission Alsace, elle comprenait un groupe de savants, hein, Goudsmit, il y avait d'autres savants, des très bons savants, et un groupe de baroudeurs, pour faire le coup, quoi. Donc, elle était dirigée par un certain colonel Patch. Et donc, ils ont débarqué en Provence, ces gens-là, et ils sont embarqués dans les basques de Lattre, ils ont remonté, et quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient les premiers dans la capitale. Et à peine arrivés, ils se sont précipités au Collège de France, percés partout, pour récupérer tous les renseignements qu'ils pouvaient. Parce que leur mission, c'était de détruire en Allemagne tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait trait recherche atomique. Il fallait tout détruire, embarquer les savants. Voilà. Donc ils font le tour de Paris. Ils ont une réunion avec les gens de la Société des Terres Rares qui travaillaient pas mal avec Joliot. Et là, stupeur, ils apprennent que, quelque temps avant, les Allemands ont embarqué tout un stock, 166 tonnes, de sulfate de thorium. Alors là, panique. On a chien. Les Allemands sont bien plus en avance qu'on ne pense, parce qu'ils n'étudient pas le 235, ni rien du tout. Parce qu'avec du sulfate de thorium, on peut produire du PU233, je crois, qui est très fissile. Donc, ils ont la peur de leur vie. Ils se disent, tiens, les Allemands sont très en avance, ça se trouve, sur nous. Alors, du coup, ils se précipitent aussi là, avec Leclerc, la deuxième DB, qui montait vers le nord, et rentre à Strasbourg, pareil. Il y avait encore des batailles qui avaient lieu. Ils rentrent dans Strasbourg. Les Allemands sont surpris, ils foutent le camp. Ils n'ont rien le temps de planquer. Eux, ils découvrent des labos un peu partout, à l'hôpital, dans un hôpital, etc. Ils récupèrent des papiers, ils examinent le tout. Et alors là, ils s'aperçoivent qu'en fait, la raison pour laquelle le thorium, les Allemands ont embarqué le thorium, c'était pour faire des produits de beauté et du dentifrice. Parce qu'à l'époque, il y avait des grandes affiches en Allemagne qui le dentifrice au thorium, des dents radioactives, enfin, il y avait tout un... Donc, la petite histoire du thorium. Bon, néanmoins, cette mission Alsos, elle est arrivée dans la zone française avant que les Français aient eu le temps de réagir, hein. Et ils ont détruit tout ce qu'ils trouvaient dans les grottes, il y avait des instrumentations, etc. Ils ont détruit, ils ont embarqué les savants, etc. Donc là encore, les Français se sont fait court-circuiter. Alors, bon, les Français, finalement, ils se trouvent complètement isolés des Anglo-Saxons qui ne veulent rien leur dire, leur fournir, sans uranium. Ils sont mis hors jeu, carrément hors jeu. Donc ils vont devoir développer tout seuls le programme nucléaire français, d'autant plus que le ministre de l'Armement, à l'époque, Chartillon, est membre du Parti communiste, opposé bien sûr à la réalisation d'une bombe nucléaire. Donc voilà la situation à la fin de la guerre. C'est pas... Donc les Français vont... La France va réorganiser donc son programme nucléaire et en août 1945, donc, Raoul Dautry, qui est ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, et Joliot-Curie sont chargés par De Gaulle, qui est le président donc, du gouvernement provisoire, de proposer une organisation de l'industrie nucléaire française avec comme objectif la fabrication de bombes atomiques, bien entendu. Alors, et c'est là qu'en donc, le 18 octobre 1945, le commissariat de l'énergie atomique est créé par ordonnance. Alors, c'est un outil extraordinaire, le CEA, parce qu'il a une structure juridique complètement hors norme. Il est autonome financièrement et scientifiquement. Il ne dépend que directement du conseil, du président du conseil. Alors, on peut se dire qu'avec un tel instrument... Alors, Joliot, évidemment, est nommé haut commissaire. Et... c'est Raoul Dautry qui est nommé administrateur général. Donc il y a c'est une direction bicéphale, une direction scientifique et une direction administrative. Donc on peut penser qu'avec avec une telle structure, le programme va aller vite, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le cas parce que Joliot devient de plus en plus pacifiste, au fur et à mesure du temps. Il fait des conférences à l'étranger où il prêche la bonne parole en disant qu'il n'est pas question que la France se dote d'une arme nucléaire, il faudrait éliminer les armes nucléaires dans le monde. Enfin, il administre aussi la chose. Et il est en perpétuelle bisbille avec d'autrui. Parce que c'est lui qui dirige tout. Et pour l'extérieur, il a mis des hommes, des savants à lui dans la place. Et de l'extérieur, on dit que c'est un repère de communistes. Le CEA, c'est un repère de communistes. Donc, en mauvaise presse. Et donc, ça va durer. Ça va durer jusqu'à 1950 à peu près. Et là, au fur et à mesure qu'on passe des essais de laboratoire, enfin de la théorie aux essais de laboratoire, puis des essais de laboratoire à des choses plus industrielles, les politiques, ils s'aperçoivent que les savants, finalement, ils ne sont pas irremplaçables. Et ce qui va faire déborder le vase, c'est quand Joliot va soutenir la déclaration de Stockholm, le manifeste de Stockholm. Le manifeste de Stockholm, c'est un manifeste donc, qui était signé par... Parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques qui étaient contre la bombe atomique, donc, signé par beaucoup de scientifiques, qui interdisaient formellement au pays de se doter de l'arme nucléaire. Interdire les armes nucléaires avec un contrôle sévère. Et il y avait un article qui disait que le pays qui se servirait de l'arme nucléaire, il serait condamné pour crime contre l'humanité. Donc ça a fait déborder le vase. Et Joliot, finalement, on lui a demandé il a démissionné du CEA en 1950. Alors, après, il y a eu une période, toute une période où il n'y a pas eu, il n'y avait plus de haut commissaire. Pendant un an à peu près, il n'y a pas eu de haut commissaire au CEA. Et d'autri, il commençait à sucrer les fraises. Donc le CEA, il était un peu... Il ne savait pas trop où il allait. Ça marche plus ? Et alors, c'est là qu'est intervenu quand même un événement important, c'est l'arrivée de Félix Gaillard au gouvernement. Et Félix Gaillard, lui, était vraiment convaincu qu'il fallait que la France se dote de l'arme nucléaire. C'est à partir de 1950 quand même que tout va quand même s'accélérer sur ce programme français. Alors, j'ai oublié de dire qu'en juin 1946, à l'instigation de Joliot d'ailleurs et des politiciens français de l'époque, l'ambassadeur français à l'ONU, Parodi, Alexandre Parodi, fait une déclaration officielle en disant que la France renonçait à faire la bombe atomique. Donc ça aussi, ça n'a pas été très bien vu par un certain nombre de gens, parce qu'il faut voir que De Gaulle n'était plus au pouvoir. Mais il suivait les choses de très près. Et il avait des hommes à lui un peu partout, dans le gouvernement, au Parlement, etc. Et donc il faisait passer des messages. Ce qui fait que cette déclaration de Parodi a été quand même quelque chose qui a été très mal vu. Alors, néanmoins, en 1951, donc, Gaillard nomme comme haut commissaire, Francis Perrin comme haut commissaire et comme administrateur général, Pierre Guillaumat. Alors, Pierre Guillaumat aussi, lui, c'est comme Félix Gaillard, hein, ça va être une des chevilles ouvrières de la fabrication de la bombe. Parce que Gaillard, il est resté au pouvoir assez longtemps, en occupant les mêmes fonctions. Il a fait 3 ans, je crois qu'il est resté aux affaires. Et Ioma, lui, il est resté 7 ans comme administrateur général. Et c'est un farouche partisan de l'arme atomique. Et il avait un réseau extrêmement fort, un réseau très, très, très bien établi, d'une part avec les politiques, puisque c'était un copain de promo de Pénabon, qui était le directeur du cabinet de Mendès France. Et ils se tutoyaient, ils étaient de la même promo de l'X, et ils étaient membres du BCRA, c'est-à-dire du service secret de la France libre. Donc ils s'entendaient comme un chien et chat. Et il avait aussi le général Crépin, il avait Chaban Delmas, il avait Michel Debré. Donc il avait un réseau politique bien établi. Il avait aussi beaucoup d'appui dans l'armée. C'était très important parce qu'à l'époque, il y avait une compétition entre l'armée et le CEA. L'armée voulant faire la bombe et le CEA voulant faire la bombe aussi. Donc chacun voulait faire la bombe. Donc ses appuis lui ont été extrêmement utiles. Et alors, vis-à-vis des politiques, il avait un atout très, très important, c'est que les politiciens ne connaissaient rien. Truc atomique, ils ne connaissaient rien. Et Guillaume leur a un peu bourré le mou, si j'ose dire, familièrement. Parce que quand le CEA commençait à construire des piles, il disait c'est pour faire de l'énergie. En fait, c'était pour faire du PU, quoi. Ouais. Mais les politiciens, ils connaissaient rien, donc ça ne les gênait pas. Donc Guillaume, c'était un homme, vraiment une chemise ouvrière très importante dans ce programme. Alors, CEA commence à construire des piles. Et Zoé, la première, elle diverge en 48, le 15 décembre 48, au fort de Châtillon. Alors, le combustible, là, c'est de l'oxyde d'uranium naturel qui utilise l'eau lourde comme modérateur. Alors, quand j'ai fait la petite présentation théorique, là, j'ai dit, l'uranium naturel, il n'est pas fissile. Le 238 n'est pas fissile. Comment est-ce qu'on peut faire marcher une pile avec de l'uranium naturel? Bon, mais l'uranium, il contient quand même 0,7% de 235. Et ils sont aperçus, enfin les scientifiques, qu'avec un modérateur eau lourde ou graphite pur, ça marche. Ça marche, pourquoi? Parce qu'il absorbe très peu les neutrons. Ce sont des modérateurs qui absorbent un peu les neutrons. Donc ça marche, le rendement n'est pas bon. Donc il faut changer les barreaux, le combustible très souvent, mais ça marche. On arrive à produire des réactions de fission. Et donc, en novembre 49, Bertrand Goschmidt extrait les 4 premiers milligrammes, c'est pas grand-chose, de PU. Et puis en 1952, donc une deuxième pile du même type, mais plus puissante, diverge à son tour. Alors ça, c'est Félix Gaillard. Alors là, je reprends ce qu'il avait dit, c'est que le 28 avril 1950, donc Joliot démissionne, est contraint à démissionner du CEA. Et Félix Gaillard, quand il arrive aux affaires, il va établir le premier plan quinquennal de l'énergie nucléaire, et qui est voté par l'Assemblée en 1952, mais qui reste encore ambigu sur la... qui ne prend pas de décision sur la fabrication de la bombe. C'est à ce moment-là que le Parti communiste propose un amendement pour interdire la fabrication de la bombe nucléaire, de la bombe atomique. Et là, cet amendement est rejeté par les députés, et même par ceux comme Jules Moc, qui étaient opposés à la bombe. Parce que ils étaient opposés à la fabrication de la bombe, d'un point de vue, disons, moral. Mais ils se rendaient compte que, politiquement, c'est nécessaire pour la France de se doter de l'arme nucléaire. Parce que sans arme nucléaire, la France n'était plus rien à l'époque. Elle était éjectée des grandes puissances et elle n'était plus rien. Donc ils se rendaient compte politiquement que c'était très important. Alors, à cette époque, le COA n'avait pas encore les moyens techniques et financiers pour enrichir l'uranium, qui était une opération, comme je vous l'ai dit, extrêmement coûteuse et importante. Donc ils ont choisi, à ce moment-là, de développer une filière uranium naturel comme combustible, graphite comme modérateur, et gaz carbonique comme fluide caloporteur. Donc c'est ce qu'on a appelé la filière UNGG, uranium naturel, graphite gaz. Alors là, les premières piles c'était l'eau lourde, là c'est le graphite. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Bon, ben, ils ont changé parce que à partir de 1950, le CEA a réussi avec Péchinet à produire du graphite de très haute pureté et à un coût bien inférieur à l'eau lourde. Bon, il y avait aussi une raison politique, c'est que les gens qui avaient construit les piles à eau lourde, c'était les hommes de Joliot qui avaient conçu ça. C'était des communistes. Donc, pour passer au graphite, ça permettait de les éliminer du programme. Alors évidemment, cette filière permet à la France de produire de l'électricité à un coût supportable et surtout du plutonium en quantité suffisante pour permettre un programme militaire. Pour produire une bombe, c'était Goldschmidt avait fait les premiers calculs de criticité. Il fallait à peu près 10 kilos de PU. Donc avec des piles comme ça, on pouvait arriver à avoir la quantité suffisante. Bon, et en même temps, la France, comme elle était privée de l'uranium du Haut-Katanga, eh ben, elle a recherché de l'uranium en France, et ils en ont trouvé donc à différents endroits. Et donc la France a pu extraire de l'uranium de son sol même. Alors, comme je l'ai dit, déjà, le premier plan quinquennal établi par Félix Gaillard n'était pas très net sur la décision, n'était pas clair sur la décision de faire la bombe. Et cette décision va être prise en 1954 suite à une série d'événements extérieurs. Alors, ces événements extérieurs, bon, il y a d'abord la bataille de Dien Bien Phu. Pendant cette bataille, les Français, apparemment, avaient demandé aux Américains la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Bon, bien sûr, les Américains ont refusé. Ce qui montrait l'alliance, les limites de l'alliance entre la France et les États-Unis du point de vue militaire. Ensuite, il y a eu cette histoire de traité sur la communauté européenne de défense, le CED. Le CED, c'était une initiative pour interdire en fait aux États d'avoir un programme militaire. C'était l'Europe qui contrôlait les combustibles nucléaires, etc., et qui interdisait finalement de faire la bombe. Quand Guillaume, entre autres, a appris ce qui se tramait, parce qu'il n'était pas du tout mis au courant, lui, il a rué dans les brancards, Et il a pondu, il a écrit noir sur blanc toutes les conséquences de ce que qu'amènerait ce CED. Chaban-Delmas a fait aussi a pris la tête de Guy Mollet, et puis pendant 3 heures, avec d'autres, ont essayé de le convaincre, et lui ont fait finalement retourner un peu sa veste. Et finalement, la CED a été rejetée. Mais c'était déjà une tentative pour verrouiller le programme militaire français. Donc c'était une des raisons qui a poussé aussi à prendre une décision ferme. Et puis alors surtout aussi, au début, après Hiroshima et Nagasaki, la stratégie américaine, c'était que bon, l'arme atomique, c'était une arme de fin de guerre. C'était l'arme qui mettait fin à la guerre. On balançait le truc sur des villes, on tuait des civils, etc. Mais ça mettait fin à la guerre. Et à un moment donné, ils changent leur stratégie et ils font de l'arme atomique une arme normale, une arme de guerre. Alors, à partir de ce moment-là, une armée classique, et bien évidemment, devient, je dirais pas inutile, mais secondaire. Donc c'est aussi une raison qui a poussé la France à prendre sa décision. Donc en 1954, les chefs d'état-major des armées se prononcent pour un armement nucléaire national, mais intégré à l'OTAN encore. Alors, le 26 octobre 1954, suite au rejet de la CED par l'Assemblée nationale, Pierre Mendès France, président du Conseil, signe, lui, un premier décret créant la Commission supérieure des applications militaires de l'énergie atomique, qui était dirigée par le général Crépin, justement, un ami de Guillaume. Et le 4 novembre, un deuxième décret créant le comité des explosifs nucléaires, le CNE, qui était intégré au CSMEA. Et ces deux organismes, comme le CEA, dépendant directement du président du Conseil. Le CNE, lui, était, disons, il y avait, c'est le professeur Rocard dont j'ai parlé au début, avait été nommé rapporteur général du CNE. C'est lui qui était le scientifique. Alors, le CNE, en 1954, remet à Mendès France un projet de programme prévoyant la construction de 2 réacteurs nucléaires de type G2 pour produire 70 à 80 kg de PU, donc largement ce qu'il fallait pour construire quelques bombes, la création du bureau d'études générales BEG pour constituer et gérer les équipes scientifiques techniques, la création d'un centre d'essai pour concevoir et mettre au point le dispositif de mesure à effectuer lors des essais, la création d'un centre d'essai au Sahara, la création d'un réseau de détection permanent des essais, l'étude de la séparation isotopique. Donc là, déjà, on commence à aller dans le solide. On parle d'expérimentation dans le Sahara. Donc les choses se précisent. Et suite donc à ces recommandations, donc le 26 décembre 1954, Pierre Mendès France convoque une réunion d'experts au cours de laquelle il prend un certain nombre de décisions. Donc, le lancement d'un programme de fabrication d'armes nucléaires, secret, on n'en parle pas, mais c'est quand même fait. Lancement d'un programme de construction de sous-marins nucléaires. Ces décisions ne furent jamais soumises au Conseil des ministres en raison de la chute du cabinet Mendès-France le 5 février 1955. Donc ça a été décidé et jamais approuvé par les ministres. Alors, on continue avec cette organisation. Donc, suite à ces décisions, le bureau d'études générales, ancêtre de la direction des applications militaires d'armes du CEA, est créé au sein du CEA le 28 décembre 1954. Donc c'est le général Buchalet, mon père, qui avait pris la direction du BEG et reçoit l'ordre oral, pas écrit, oral, de fabriquer la bombe. Le 20 mai 1955, un protocole d'accord secret est signé entre les armées et le CEA, qui est reconnu maître d'œuvre pour l'armement atomique. Donc là, ça devient clair, c'est le CEA qui va fabriquer la bombe, c'est pas les armées. Et ça sera confirmé par De Gaulle quand il reviendra au pouvoir. Et alors le budget, évidemment, du CEA est boosté pour vraiment entamer le processus industriel. Alors, le fait de cet accord entre le CEA et l'armée, ben en 1955, les spécialistes du service des poudres de l'armée rejoignent les équipes du CEA au centre de Vaujours, qui sera dédié à la détonique. Parce que ça a été aussi un... Disons, la bombe atomique, ça n'a pas été un problème théorique. De théorie, la réalisation de la bombe atomique, c'est un problème technique. Problème de... On savait comment faire, mais je veux dire, on savait ce qu'il fallait faire, mais on ne savait pas comment le faire. Parce qu'il y avait des problèmes ardus. Un des problèmes, c'était d'arriver au stade critique de la boule de PU à l'aide d'un explosif classique. C'est-à-dire qu'on avait un explosif classique qui était placé autour et qu'on faisait détonner ponctuellement. Mais il fallait que l'onde devienne centripète à un moment donné pour concentrer de façon symétrique cette boule de PU. Et ça, les gens du CEA ne savaient pas faire. Et c'est les gens du service des poudres, les ingénieurs du service des poudres, qui ont mis au point, qui avaient de la connaissance et qui ont mis au point cette technique. Le deuxième problème, c'était la neutronique, parce que il fallait injecter des neutrons dans le système à un instant extrêmement précis. Quelques microsecondes, je ne sais pas quel était le timing, mais quelques microsecondes avant la phase critique. Et à partir d'une source ponctuelle. Donc c'était aussi un problème extrêmement ardu. Et ça aussi, c'était les ingénieurs de la section atomique du DEFA qui avaient la connaissance. Bon, donc il y a des centres, d'autres centres qui sont créés à Valduc pour des études de criticité et aussi pour les études de neutronique à Moronvilliers. Et donc en 1958, De Gaulle confirme que la section atomique de la direction des études et fabrication d'armement doit intégrer le bureau d'études générales. Donc là c'est clair, les ingénieurs de l'armée sont transférés au CEA, de même que les gens du service des poudres sont transférés au CEA pour les études à bande. Alors là, il y a une autre histoire, c'est que pour tous les experts qui regardaient ça de l'extérieur, voyant ce flux d'argent, etc., pour eux, il ne faisait aucun doute que si on laissait faire ça comme ça, eh ben, la France allait aboutir, allait arriver à construire sa bombe d'une façon ou d'une autre. Donc, pour tous ces opposants, il y en avait. En interne, il y en avait. Et en externe aussi. Il y avait les anglo-saxons, on ne voulait pas entendre parler d'une bombe française. Les Russes, pas non plus entendre parler d'une bombe française. Donc, à un moment donné, quand les gens ont inventé un processus pour essayer de bloquer la France. Un processus, ils lui ont donné le nom d'Oratom. Alors c'était un traité qui aurait été signé par les différentes nations européennes et qui donnait le contrôle. Alors, il y a eu des tas d'organismes qui étaient impliqués là-dedans. Il y avait les six Européens, il y avait le Conseil de l'Europe, il y avait des tas de gens impliqués. Et il y a eu beaucoup de discussions. Les gens voyaient ça de différentes façons. Mais il y a deux groupes qui se sont formés, qui ont émergé. Il y avait ceux qui étaient partisans de l'intégration totale. Ça voulait dire que c'était Euratome qui était le propriétaire de combustible nucléaire, du combustible nucléaire, et donc autorisait des quantités absolument infimes de combustible dans chaque pays, donc c'était la fin, c'est la fin de la bombe nucléaire française. Puis il y avait ceux qui étaient partisans d'accord entre les nations, qui permettaient de garder la liberté de faire ce qu'on voulait. Le problème, c'est que Guy Mollet, lors de son investiture en janvier 1956, il était partisan, lui, de l'intégration. Il voulait absolument intégrer l'Euratome, pas les peurs. Donc, cet Euratome, c'était le cheval de Troie des Américains. C'est les Américains qui avaient eu l'idée de ce truc-là et qui espéraient par là bloquer les initiatives de la France. En juillet 1956, Guy Mollet, convaincu par un certain nombre de gens, retourne sa veste et déclare qu'il ne se sent pas lié par les déclarations de parodie, etc., que la France se réserve le droit de construire sa bombe, etc. Enfin, il retourne complètement sa veste. Et à partir de là, donc, il est soutenu par la majorité des gens, bien entendu, n'ont pas une raison de le faire tomber. Donc le traité de l'uranium, la participation de la France au traité est votée par l'Assemblée, mais ce traité, ce n'est pas contraignant pour la France. Ça veut dire simplement que la France accepte de continuer à discuter sur ce sujet. Et Guy Mollet, décide d'accélérer le programme militaire français et de le réaliser en dehors des États-Unis. Et alors là, on prend vraiment des décisions concrètes. Félix Gaillard prescrit une série de tirs expérimentaux au Sahara algérien en cours du premier semestre 1960. Cette décision évidemment confirmée par De Gaulle à son retour au gouvernement. Donc là, vraiment, on est dans le dur, là, on y va, quoi. Et ça va devenir officiel. Parce que jusqu'à présent, il y avait une position de façade. Mais là, en juillet 58, De Gaulle prévient le secrétaire d'État américain, John Foster Dulles, que la France va se doter de l'arme nucléaire. Donc là, ça devient vraiment officiel. Et alors, pour De Gaulle, donc et la Ve République, l'arme nucléaire devient la garantie de l'indépendance nationale. Il n'est plus question de construire la bombe sous l'égide de l'OTAN. C'est un programme national. Car pour De Gaulle, évidemment, si les armes nucléaires américaines demeurent quand même la garantie essentielle de la paix, il n'a pas de doute là-dessus, mais elles ne répondent pas nécessairement immédiatement à toutes les éventualités concernant l'Europe et la France. Parce qu'il y a eu l'histoire de Diamenfou. Mais je n'ai pas parlé de l'histoire de Suez. Hein, l'histoire du canal de Suez, là, c'était pareil. La France, l'Angleterre et Israël avaient mené une action militaire, etc. est menacé par la Russie et pas soutenu du tout par les Américains, ils avaient lu jeter l'éponge. Donc De Gaulle, bon, bien aperçu que cette alliance militaire avait quand même des limites et que les Américains pensaient plutôt à leur... Hein, alors, c'est pas nouveau. Hein. America first. Alors, on arrive maintenant aux essais, enfin à l'explosion. Donc, l'explosion de la première bombe française, gerboise bleue, a donc lieu le 13 février 1960 à Reagan, dans le Sahara algérien. Et la même année, d'ailleurs, deux autres tirs sont effectués, gerboise blanche et gerboise rouge. Alors, ces premières bombes, en fait, au Sahara, il y a trois sites. Il y a la base arrière, donc il y a une base logistique, il y a le PC avancé, et puis il y a le point zéro. Alors, il y a trois sites. Au point zéro, c'est là où le tir est effectué. Les bombes sont placées au sommet d'une tour qui fait une centaine de mètres de haut, qui est située à Amoudia. Bon, on n'a pas... Et donc, le premier tir est un succès. Donc, ils avaient tous un peu la pétoche. Hein. Ça aurait fait pchit. C'était quand même gênant, hein, vis-à-vis de l'extérieur. Mais tout s'est très bien passé. Et en particulier, le rendement de l'explosion était très bon. On était supérieur à 50%, alors qu'il était de 2% à Hiroshima. Hein. Donc, il n'a pas de quoi rougir. Hein. Et puis, donc... Bon, le problème, c'est qu'en 61, il y a eu le putsch à Alger. Et donc, il a fallu faire péter en vitesse une des bombes qui n'a pas servi à grand-chose, d'ailleurs. Mais enfin, bon, il a fallu faire péter gerboise verte pour éviter qu'elle soit phagocytée par les putschistes, parce qu'ils avaient l'intention de se l'accaparer, apparemment. Bon, en raison de la pollution importante résultant des essais aériens, bien sûr, parce qu'il y avait quand même une pollution. Et la météo a joué un rôle très important dans ces essais, parce qu'à l'époque, la météo n'était pas quelque chose de très précis. Hein. Le modèle de l'atmosphère, c'était une couche, point final. Donc ça ne pouvait pas rendre compte des phénomènes. Donc ça a été... les ingénieurs météo, enfin l'ingénieur responsable, avait fait un travail expérimental sur le terrain assez extraordinaire pour étudier tous les phénomènes qui se passaient là-bas. Mais néanmoins, il y a eu quand même quelques fuites de temps en temps et une pollution. Si le vent tournait, le nuage il allait où le vent allait. Hein. Alors, donc, après ces premiers tirs aériens, on a décidé de faire des tirs souterrains. Donc là, un autre site a été choisi, dans le massif du Hoggar, à environ à peu près 150 km au nord de Zamarasset. Alors là, on creuse une galerie horizontale dans le granit, qui se termine avec un colimaçon pour casser le souffle de l'explosion. Et on ferme de façon étanche la galerie avant de faire péter la bombe. Alors le premier essai souterrain a eu lieu en novembre 61, un deuxième essai le 1er mai, et malheureusement, au cours de cet essai, il y a eu un nuage radioactif qui s'était échappé de la galerie. Et puis après, il y a eu d'autres essais qui ont été faits. En tout, une 13 tirs ont été effectués. Et bon, finalement, les accords d'Évian qui sont signés le 18 mars 62 obligent la France à quitter le Sahara et à trouver un nouveau site. Donc c'était fini pour le Sahara à ce moment-là. Alors, la France est... Comment ? Oui, alors la France est obligée de choisir un autre site. Bon, et là, elle va dans le Pacifique, sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie française, et le 2 juillet 1966, donc c'est le premier essai nucléaire aérien sur l'atoll de Mururoa. Bon, après, on passe à un autre engin qui est la bombe H, qui est une autre histoire. Mais alors, il y a une anecdote aussi qui est amusante. Là, c'est, je vais parler du professeur Rocard. C'était un brillant scientifique. Hein, il était bordé de diplômes. Il était normal sup, agrégé de physique, docteur en sciences mathématiques, docteur en sciences physiques. Difficile de faire mieux. Hein. Et c'était un très bon scientifique. Il a fait beaucoup de travaux. C'est lui qui a calculé le pont de Tancarville. Hein, il a fait beaucoup. Il était spécialisé dans les vibrations, et en particulier, c'est lui qui avait élaboré tous les systèmes de détection des explosions. Et il était arrivé à faire des appareils absolument merveilleux qui détectaient. Le moindre pas de lapin, nada. Une anecdote dit que, je ne sais plus en quelle année, mais encore une tentative de bloquer les essais français. À un moment donné, après une centaine d'essais, les Américains et les Russes se sont dit « Bon, ben maintenant, on arrête. Hein, on ne fait plus d'essais. Plus personne ne fait des essais. On arrête tout. » Donc il y a eu une grande conférence à Genève et on négocie des essais. Et le professeur Rock, il a sidéré tout le monde dans le cours de cette conférence. Il a projeté des enregistrements d'une explosion thermonucléaire qui s'est passée pendant les négociations. Il a un peu ridiculisé tous les gens qui étaient là. Ceci pour dire que la France était à ce moment-là reconnue pour avoir les systèmes de détection les plus performants. Malheureusement pour le professeur Rocard, il a fait beaucoup de choses. C'est lui qui a inventé aussi le premier système anti-roulis sur les navires. Mais il a eu le tort pour sa carrière parce qu'il était prévenu, il aurait dû quand même être membre de l'Institut, enfin bon, etc. Il s'est intéressé à l'effet des ondes magnétiques sur le corps humain. Et en particulier, il s'est intéressé aux sourciers. Et il a publié quelques bouquins, sur la science des sourciers. Et la communauté scientifique, il est passé pour un rigolo, quoi. C'est-à-dire, ça fait pas très sérieux. Et donc, il a été un petit peu mis à l'écart à partir de ce moment-là. C'est bien dommage, parce que c'est un type très brillant. Voilà, donc... Non, mais... Voilà, je crois que j'ai fini. Enfin, je suis dans les temps, hein, pile poil. Hein.
Bravo. Merci, Christian. Donc, on s'est régalé. C'était très clair. Et j'ai pas détecté d'erreur. Donc, c'est très complémentaire avec ce que j'ai pu raconter, bien sûr. On a les mêmes sources, hein, y a pas de miracle. Donc là, vous avez une synthèse, mais assez détaillée, de tout le processus par lequel c'est arrivé. Donc, encore une fois, l'importance des hommes, capitale, ouais, capitale.
Mais je le disais, ce qui a été très étonnant dans cette histoire, quand même, qui frappe quand on regarde, c'est que la 4e République, il y avait un président du Conseil tous les 9 mois. Ça tournait... voilà. Et... Comment réaliser un programme cohérent et continu dans cette atmosphère? C'était un challenge. Et c'est grâce à des gars comme Gaillard et surtout Guillaume. Guillaume a été vraiment une cheville ouvrière. D'ailleurs, on appelle la bombe 3G. De Gaulle, Gaillard, Guillaume. Mais c'est vrai que heureusement, ces hommes ont travaillé un peu dans l'ombre, en secret la plupart du temps, parce que je me souviens, moi, de réunions, mon père revenait de temps en temps à la maison avec Rocard ou avec Widmer, qui était son il était directeur du cabinet, et ça discutait, là, c'était fait en douce, quoi.
Voilà, donc vous savez où les dialogues secrets sont passés, dans la maison familiale. Voilà. Ben, on va laisser une petite séquence là pour des questions. Est-ce que vous voulez demander des précisions et tout ? Oui, vas-y.
À l'époque, il était français. L'uranium, les mines d'uranium qui destinaient à la bombe.
Oui.
Il était d'origine française.
Oui, oui, oui.
Depuis, on a fermé toutes les mines en France.
Oui, bien sûr, depuis. Oui.
Maintenant, pour les bombes actuelles, il vient d'où l'uranium ? Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance à l'étranger ?
Bonne question.
Joker. Non, ça doit être l'Australie et puis le Canada.
Oui, il y a le Canada, ouais, certainement. Donc il est importé, hein, c'est sûr.
Le Congo, je ne sais pas si c'est exploité toujours. Bon. Enfin, on va,
mais maintenant, il n'y a plus de secret, quoi. Je veux dire, la France est partie du club nucléaire, donc ils n'ont pas de réticence à fournir de.
Je voudrais renforcer ce que tu as dit là sur le. On a eu l'amiral Koldefi il y a quelques jours là, pour nous parler de la marine justement. Bon, la marine française, son rôle et tout. Et bien sûr, il y a une composante nucléaire dissuasion. Et il a dit une phrase qui m'a frappé. Il a dit, alors je ne sais plus s'il l'a dit en public ou en particulier, il a dit on ne peut pas dire que les gens nous aiment ou nous détestent. Non, les gens nous respectent. C'est-à-dire, c'est ce que disait De Gaulle, on n'a pas d'amis, on a des partenaires et on fait avec. La France n'a pas d'amis ni d'ennemis, mais elle a des partenaires. Et puis elle fait avec au cas par cas. Donc, quand on a un gros couteau dans sa poche, on est respecté que quand on n'a pas de couteau du tout.
Voilà. Oui, malheureusement, c'est vrai.
Voilà. Bon. Puisque finalement, toute la philosophie de la dissuasion, c'est d'avoir un gros couteau et de ne pas s'en servir. Voilà.
Ouais, alors, petite dernière. J'ai dit que la bombe atomique, la bomba, c'était pas un problème théorique. Un problème de réalisation, une précision démoniaque. Et par exemple, la neutronique, la source de neutrons, les Américains l'avaient mis au centre de la sphère. Ça paraissait logique. Hein. Les Français, non, l'extérieur. Hein. Donc, pour arriver à ces précisions, c'est extraordinaire. Par contre, la bombe H qui a suivi, c'était tout l'inverse. Là, c'était un gros problème théorique. Et là, moi, je l'ai vécu personnellement, ça, parce que je travaillais à la DAM, en métallurgie, donc métallurgie des aciers en déformation rapide. Et il y avait, c'était en 66, hein, 66-67, les grosses têtes, les crânes d'œufs, comme on disait, ils étaient à Limeil. Autre centre de la DAM, c'est là où vous faisiez les calculs, c'est là où il y avait les gros calculateurs, les gros ordinateurs. Et moi, j'allais de temps en temps passer mes petits calculs, qui étaient importants pour moi, mais vis-à-vis des calculs de la bombe, c'était rien. Et je rentrais dans la salle des imprimantes, il y avait une batterie d'imprimantes, c'est des grosses imprimantes, qui sortaient, c'est les feuilles, machin, là. Ça faisait un bruit mitraillette. Il y avait des piles, papier comme ça. Et puis, 1 mètre, 1 mètre 50. Un jour, je vais regarder ce qu'il y a dessus quand même. Je prends des zéros. Il y avait des zéros partout. Il n'y avait que des zéros. Il n'arrivait pas à calculer la bombe. Il n'arrivait pas. Et j'avais un cousin qui faisait partie de cette équipe de crâne d'œuf, là, et qui avait un bureau à B3, à Bruyères aussi, à Châtel. Et il venait toutes les semaines pour faire la liaison. Et on mangeait ensemble à la cantine. Et je lui disais alors, ah ben, on n'arrive pas à trouver, rien à faire, on ne trouve pas. Et le grand Charles, il commençait à bouillir. Et ça a duré plusieurs mois. Hein. Et tout le monde était sur les dents. Hein. C'était vraiment très critique. Et un jour, je le vois arriver, la mine réjouie. Je lui dis, alors ça y est. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez trouvé? Alors, il me dit, mon vieux, c'est incroyable, mais... Non, il y avait le dernier Time Magazine. Il y avait un article de Turner, qui était le patron de la bombache américaine. Un article de vulgarisation. Mais il y avait un schéma. Et le schéma, c'était juste un cylindre de rien. Mais la géométrie, ça fait tilt. Parce que nos équipes, ils partaient sur des géométries sphériques. Et quand ils ont vu le cylindre... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Alors celle-là, elle est vraie. Hein. Bon, c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle ils ont trouvé, parce qu'il y a d'autres sources qui disent que les Anglais, à l'époque, auraient négocié des informations sur la bande lâche contre l'entrée dans l'Union européenne. C'est quand même assez marrant, hein? Parce que De Gaulle, il était complètement contre hein, l'entrée des Anglais. Il voulait pas en entendre parler. Hein. Donc ils auraient négocié ça contre des informations. C'est amusant aujourd'hui avec le Brexit. Quoi.
Bon, on va remercier Christian une fois de plus pour son brillant exposé.
Merci.
Et puis une petite histoire. Un monsieur qui était là, Jean Rebiffet, là, qui a dû partir plus tôt, c'est le dernier qui était encore en haut de la tour avant que la bombe pète. Et il a survécu. Il fait péter mon machin.